Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Rencontre de trois personnages habités par la musique et grâce à qui nous allons nous-mêmes entrer, nous immerger même, dans cet univers musical qu'en fait on connaît peu. C'est dans un livre rare, un livre édifiant, éblouissant, qui enchantera les mélomanes mais aussi tous les autres, dont hélas je fais partie. On ne peut lâcher cet ouvrage tant l'histoire, portée par une écriture remarquable et passionnante, tout comme l'éclairage porté sur des individus hors normes, des génies, pourrions-nous dire, de la musique ici, mais probablement de toutes les formes, dans ce roman intitulé « Trois concerts ». Il est édité par la maison Phébus et j'ai le grand plaisir de recevoir son auteur, Lola Gruber. Oui, Lola Gruber, bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas l'habitude d'être aussi dithyrambique, mais vraiment, cet ouvrage, je ne l'ai pas lâché, je ne l'ai pas tout à fait terminé, et croyez-moi, et c'est un livre qu'on a envie de le relire. Alors, merci déjà. Alors, une question. Ce livre contient une densité incroyable d'informations sur le monde de la musique, sur ses interprètes et tout ce qui gravite autour. Vous baignez vous-même dans ce milieu ?
Baignée, non. Je ne suis pas musicienne, déjà, ce qui est quand même une grande différence entre quelqu'un qui serait musicien. Je ne connais pas le solfège, je ne joue pas d'instrument, donc il m'a fallu emmagasiner pas mal d'informations. Je travaille quand même pour un théâtre depuis une dizaine d'années maintenant, le théâtre de l'Athénée à Paris, où il y a beaucoup de musique. Et j'avais pensé naïvement que ça m'aiderait. J'avais vraiment mésestimé les choses en pensant ça, mais je ne regrette pas du tout cette erreur de jugement.
Oui, mais vous dites que vous n'êtes pas dans ce milieu-là, mais c'est peut-être que c'est ce qui permet plus d'acuité et plus de recul.
Oui, sans doute. Et de toutes sortes de façons différentes. D'une part, je pense que par rapport à une musicienne ou un musicien, j'ai une autre écoute du vocabulaire même de la musique, c'est-à-dire que si, même si on n'est pas musicien et qu'on ne sait pas ce que ça signifie, le lexique de la musique avec des mots comme fugue, comme soupir, comme cadence, si on ne sait pas ce que c'est au point de vue musical, c'est des mots qui parlent très fort et il y avait un vrai plaisir d'utiliser ces mots-là pour leur qualité poétique aussi, d'une part. D'autre part...
Et là, c'est l'écrivain qui parle, la littéraire.
La musique m'a appris deux, trois trucs hein, aussi, au niveau littéraire.
Oui.
Il y a de quoi écouter beaucoup de musique. Je conseille ça à tout écrivain qui aurait des problèmes avec sa phrase.
Ça vous porte ?
Ça donne des... Non, ça enseigne des choses. Au niveau des rythmes, au niveau des couleurs, au niveau des nuances, ça enseigne beaucoup de choses. Mais pour ce qui est de la description du milieu musical, des mœurs des musiciens, de leur façon de penser, ne pas connaître quelque chose vous donne une certaine humilité aussi.
Et puis vous n'avez pas d'idée préconçue.
Oui, et vous devez vous expliquer les choses à vous-même dans un premier temps, ce qui vous aide à les expliquer à un tiers aussi.
Oui, c'est ça, parce que vous arrivez à bien à faire passer. Et je trouve que ça, c'est un talent, parce que finalement, comme je dis dans mon introduction... Même ceux qui ne sont pas du tout mélomanes, qui n'y connaissent rien, qui peuvent aimer la musique, bon, mais qui n'y connaissent rien, adhèrent tout de suite. Alors, combien de temps vous avez mis pour écrire un livre aussi abouti ?
Entre 7 et 10 ans.
Ah oui.
Oui, quand même.
Oui. Ah ben oui, mais bon, le résultat est là. Au départ, donc, vous décrivez une passion, il me semble, celle qui laisse peu de place à autre chose.
Ça gravite autour de personnages qui sont en proie à des obsessions. En proie à des obsessions pour ce qui est d'un des personnages principaux, qui est au départ du livre une toute petite fille. C'est des obsessions sonores, c'est comme une sorte d'état archaïque de la musique. Et après, c'est vrai que les musiciens, les écrivains aussi, hein, mais peut-être d'une façon différente, sont des êtres obsédés.
Oui.
Obsédés par la musique, enfermés dans la musique, contents d'être enfermés. Hein, et qui du coup, et c'est ce que raconte pour une autre part le livre, ont une difficulté énorme à s'insérer dans un monde social qui va...
Un milieu qu'on dirait normal, si ça existe.
C'est pas juste qu'il y a un milieu normal, c'est qu'il y a le milieu à quoi tient une carrière, qui est essentiel aussi à la vie d'un musicien.
Oui, on en parlera de ça aussi. Mais au départ, il y a une œuvre à l'étrange destin.
Oui, il y a une œuvre totalement fictive. J'étais très contente que quelqu'un l'a cherché, on me dit mais je l'ai pas trouvé.
Là, honnêtement, là, j'ai pas cherché parce que je me suis doutée qu'elle était fictive.
Il y a une œuvre qui sont des suites pour violoncelle écrites par un compositeur pour un interprète. Et cet interprète, pour toutes sortes de raisons, ne va pas les jouer, mais en reste le dépositaire. Et cette œuvre est un peu le fil rouge, jusqu'à un certain point, un lien entre diverses époques et les trois personnages principaux de ce livre.
Oui, à un moment donné, il dit Crespin. Alors, c'est Crespin, donc on dit Crespin ?
Moi, je dis Crespin. Crespin. C'est un Britannique.
Oui. Ah oui, Crespin n'avait rien d'un escroc. Et ce qu'il a écrit, je trouve sublime, sublime. Et je ne parle pas pour la construction, pour l'audace ou même pour l'art. Je parle là d'honnêteté. Jamais, ni avant ni après, il n'a atteint ce degré de, on pourrait dire, de vérité. Oui, c'est comme s'il visitait là-dedans toutes les couleurs de certaines vérités, non seulement humaines, mais aussi naturelles, animales, les forces primitives et comme elles agissent. Alors, ce n'est pas toujours joli à entendre, c'est ça. Je crois que Balint a fait joli. Et pour Crespin, il ne pouvait rien arriver à cette musique de pire. Alors, on va voir quand même tous les déboires de cette œuvre. Et autour de cette œuvre, donc, il y a trois personnes. Alors, vous m'avez parlé de cette petite fille. Moi, j'aimerais qu'on... Si vous voulez bien, on va bénéficier le problème d'âge. On va donner la parole à l'ancêtre, Victor Sobolevitch.
C'est ça.
Voilà, là j'ai bien prononcé. C'est un violoncelliste célèbre, un génie.
Un génie, c'est jamais dit.
Non, mais c'est moi qui traduis. J'ai peut-être tort, mais...
C'est un grand violoncelliste. Non, mais la question se pose sur tous les interprètes, c'est-à-dire que... Et ce serait peut-être un défaut de... quelques romans ou de films qui traitent de musiciens. Les musiciens sont toujours justement des génies, des magnifiques virtuoses, mais c'est avant tout le goût de quelqu'un.
Oui.
Y a des...
Vous voulez dire qu'on peut être génie pour quelqu'un, mais pas pour quelqu'un d'autre.
Mais il n'y a qu'à entendre. Il y a des émissions sur France Musique qui durent 5 heures, où des spécialistes s'arrachent les cheveux pour déterminer quelle interprétation est meilleure que l'autre et s'en peignent, etc. Mais ce qui est aussi, quel que soit le goût, qu'on développe une preuve de la vitalité de la musique et de son mystère aussi, parce qu'on parlait de l'œuvre de Crespin tout à l'heure, l'œuvre fictive, mais qu'est-ce qui fait qu'une tonalité de si mineur, ça rend triste, qu'une musique rend guerre, rend triste, rend angoissée, il y a quand même un mystère là-dedans. Mm. Pour revenir à l'ancêtre, il y a beaucoup de moi dans ce vieux monsieur misanthrope, donc je...
Ah oui, on en parlera parce que c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a à certains endroits une similitude entre l'interprétation et l'écriture, entre la musique et l'écriture ? Je crois que oui.
Oui, oui, oui.
Hein ?
Il y a des goûts, il y a des affaires de goût en musique comme en littérature et autre chose qui est assez étonnant dans beaucoup de productions sur la musique, alors que je viens d'y faire référence, des spécialistes peuvent comparer pendant des heures des interprétations, le jeu des musiciens dans les œuvres de fiction est rarement caractérisé. C'est toujours formidablement bien, magnifique, etc. Or, il y a des grandes différences entre, si vous prenez la même œuvre par deux violoncellistes, vous allez entendre des choses très différentes.
Et vous n'hésitez pas, vous, à parler de quack aussi.
Aussi, mais moi j'ai une préférence pour quelque chose qui est pour une certaine pudeur dans l'expression. Parce que la pudeur me laisse quelque chose à faire à moi, auditrice.
Vous êtes une héritière de Sobolevitch, c'est sûr.
C'est
la vérité.
J'aime, si les choses sont exprimées avec une certaine sobriété, la part qui n'est pas exprimée, il me semble que ce soit par le musicien ou par l'écrivain, c'est la part de celui qui écoute, c'est la part de celui qui lit. Et je pense que ça, enfin, en ce qui me concerne, ça fait des expériences plus fortes parce qu'on a vécu quelque chose, parce qu'on y a mis quelque chose de soi.
Oui, c'est là où je dis, en littérature, c'est pareil. Plusieurs fois, j'ai dit à des écrivains, maintenant, ce livre m'appartient. Je le reçois comme ça, ça m'ouvre des mondes aussi, hein.
C'est la seule consolation qu'on peut trouver au fait d'avoir fini avec un livre et de l'avoir fini, c'est qu'il ne vous appartienne plus, que d'autres y lisent des choses que vous y avez pas sciemment mises ou pas consciemment ou pas du tout, et que les personnages que vous avez quittés, moi 10 ans, j'ai vécu avec ces gens si longtemps. Maintenant, je ne vis plus avec, mais d'autres vivent avec.
Vous nous les transmettez.
J'espère.
Voilà. Alors, à travers lui, à travers Victor, on va l'appeler Victor, hein, vous voulez montrer toute l'exigence, toutes les difficultés, les failles aussi. Bon, leur exigence, leur intransigeance, on va en parler de ça, parfois il peut être dur et on verra, mais leur souffrance également, chez certains, comme quelqu'un comme lui.
Mais je ne sais pas si on s'engage dans une forme artistique, quelle qu'elle soit, quand tout va bien. Je pense que c'est quand même l'expression d'un dysfonctionnement, de quelque chose qui peut se faire que là, parce que pour avoir la ténacité de s'engager dans des carrières comme ça, il faut vraiment une motivation qui va au-delà du... qui répond à une nécessité profonde. Et je pense qu'il y a souvent une adéquation entre une impossibilité à faire les choses autrement.
Est-ce que ça serait pour essayer d'évacuer un peu la douleur ?
La musique pose la question différemment de la littérature parce qu'on joue quand même la partition de quelqu'un d'autre. Et que quel est le rapport entre la douleur d'un violoncelliste et celle de Schubert ? Il y en a une, le lien se fait là. Il n'y a pas que la douleur, hein, il y a aussi la joie.
La joie.
La joie.
Alors, parce que je pense à douleur parce que Sobolevitch me paraît, et là, dans le livre, à bien des moments, on sent qu'il est malheureux et on comprendra pourquoi, parce qu'il y en a d'autres. En fait, il a un ami qui vit aux États-Unis qui a trouvé une forme d'équilibre et qui a l'air plutôt épanoui. Mais lui, parfois, il peut paraître presque inhumain.
Il est dans une situation de professeur aussi pendant une grande partie du livre où il est dur mais il prépare aussi quelqu'un à une situation très dure.
Donc très exigeant.
Très exigeant pour la musique d'une part, mais il y a une partie bizarrement protectrice aussi, à mon avis, dans la dureté de ses maîtres. Qui très souvent, d'une part très souvent, ils reproduisent une éducation très dure musicale qu'ils ont eue. Mais on pourrait dire que c'est pas la peine si on va pas au bout. Je dirais que c'est de cet ordre-là aussi. Alors tant qu'à s'engager à ça, oui. Autant s'engager à ça au maximum de son être.
Sinon c'est trop tiède.
Sinon on n'atteint pas ce qui peut être la plus grande joie de ces métiers aussi. Beaucoup de musiciens sont complètement obsédés par leur instrument, sont des formidables techniciens de leur instrument, mais ils laissent de côté dans cette obsession-là, qui ne concerne plus que l'instrument, la musique. Or, bon, il faut quand même que la musique soit là pour qu'il y ait une rencontre.
Alors, il y a une description superbe de la manière dont il tombe en amour. Mais avant, oui, il y a, je vais vous dire, à la page 76-77, c'est peut-être un peu long, sur l'interprétation. Parce que certains soirs, il se passe ce que chaque soir tu espères, qui donne un sens à toutes les heures. Alors là, peut-être que vous pourriez le lire, ça serait mieux encore. Voilà, et puis l'autre soir, non. Il y a deux passages.
Merci. Prenons cette brique.
Oui, alors on peut dire que c'est un gros livre, mais on ne lâche pas et on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est formidable.
Parce que certains soirs, il se passe que chaque soir tu espères, qui donne un sens à toutes les heures de travail, heures devenues des années, années devenues ta vie. Le moment où toutes tes insatisfactions veulent bien se taire et quand tu vas au feu... Et le concert est ce qu'il devrait être, chose inouïe, première et dernière fois. Plus de marchandage, plus de mesquinerie, fini. D'un coup ne demeure que le mouvement d'un groupe humain vers un autre, chacun à sa place dans une même découpe de temps, les uns soutiennent, les autres avancent, d'autres encore attendent en retrait. Les clarinettes et les bassons t'ont appelé, les premiers violons et les altos après eux, tu n'as pas répondu. Escalade. Ton silence continue, alors on ne te pose plus de questions. Les teintes s'estompent et les corps ouvrent doucement le deuxième thème. Majeur. La fièvre est montée puis retombée, on ne t'attend plus, brume et quiétude à présent. C'est ce moment que tu choisis pour attaquer, tu es parti maintenant, ils vont t'entendre. Les voix peuvent bien répéter autant qu'ils le veulent le début du premier thème, tu es lâché, le motif t'appartient, tu le martèles, tu le chamboules, tu le pousses où il n'allait pas, où il n'était pas question qu'il aille. Et puis il s'avère que tu n'es pas plus fort qu'eux. Tu chancelles, si mineur, si bémol, le hautbois te succède, l'affrontement est derrière, tu ne l'as pas vu passer. Retour au calme, au deuxième thème que tu reprends à ton tour. D'autres soirs, non. D'autres soirs sont écrits, fermés, rien n'arrive. Tu ne penses qu'à tes aigus qui sont trop secs, ritardando, c'était trop. Tu cavales un peu pour rester en selle, tu ne vois plus que des haies à sauter. Courva le passage en sextolet, pourquoi il ralentit, imbécile. Intonation pas sûre, aïe, flou, en retard, mal battu, vite et faux, c'est ton tour. 333, pas trop tôt, brillant accord. Et puisque nous n'avons peur d'aucun cliché ce soir, ralentissons jusqu'au supplice pour repartir à la charge quatre mesures plus tard. Tant pis si toute la structure s'écroule, nous sommes là avant tout pour vous faire de beaux effets. Mais sachez que si la chose vous semble interminable, ce n'est en rien la faute du compositeur. Là-dessus, relève bien la tête comme si tu étais victorieux. Imposteur.
Superbe, magnifique. Et puis, de même, il y a des extraits aussi. À un moment donné, c'est très émouvant. La manière dont il tombe en amour, je vais utiliser une expression canadienne de Maria. Et puis, il y a des scènes fortes également. Ben, l'enregistrement, justement, de l'arpeggione avec Maria. Et puis, c'est un drame. Alors, la description de son désespoir est en filigrane. Alors, c'est moi qui ai voulu faire de la psychologie sauvage, qui ai parlé de culpabilité. Je pense qu'elle y est. Mais il y a... Alors, je vais reprendre votre ouvrage. Pardon. Merci. Parce que Clarisse donne une autre explication très intéressante et que... Vous êtes d'accord puisque vous l'avez écrite.
Non, mais elle n'est pas loin de la vôtre. Je pense que ça a à voir avec la culpabilité, l'explication qu'elle donne, que les deux choses peuvent se...
Oui. Parce que mon maître, je crois qu'il y avait depuis longtemps, depuis avant Maria, quelque chose en lui qui était cassé quand même. Enfin, un peu cassé, fêlé seulement, mais c'est fragile. Une côte fêlée, on peut marcher avec, mais on ne peut pas rire, on ne peut même pas éternuer sans que ça fasse très mal. Quand Maria est morte, c'est arrivé ce qui arrive quand c'est fêlé et qu'on donne un grand coup par-dessus. Ça, c'est vraiment cassé pour de bon. Voilà. À un moment donné, il arrête tout. Il pense avoir perdu ce qui est l'essence même de son art.
L'analyse de Clarisse est, à mon avis, assez bonne. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais il y a un drame et après quelque chose se casse, mais ça ne se casse pas forcément à cause du drame. Ça se casse parce que quelqu'un était là pour éviter ce drame qui est parti. Et qu'une fêlure est toujours là. Alors, par rapport à ce qu'on disait, c'est pas parce qu'on est très névrosé qu'on est un grand artiste. Et c'est pas parce qu'on est un grand artiste qu'on est névrosé. Mais sur certaines natures, et il y a un secret de cet homme quand même, c'est un bâtard. Hein.
Oui. Donc une souffrance, là.
Bah, c'est une situation qui, en tout cas, ne va pas d'elle-même. Elle est pas... C'est une information qui est donnée au lecteur. Après, je reviens à ce que je disais précédemment, au lecteur d'en faire ce qu'il en veut, mais elle n'est pas anodine. Mmh. Et le rapport de chacun des personnages à la reconnaissance est une chose importante dans le livre. Donc, quand on n'a pas été reconnu, dans la première acception du terme, ça conditionne quand même un peu des choses, je pense.
Bien sûr. On a affaire à des êtres fragiles et forts à la fois. Et ça, vous arrivez à bien le faire sentir. C'est lui. Alors, il abandonne tout rapport avec le public. Il pense avoir donc perdu ce qui était sa vérité, finalement. Alors, oui, je dis fragile, je dis tourmenté. C'est comme ça que je le vois. Et en même temps... C'est là où je vous avez certainement raison, c'est qu'effectivement, il y a certainement des génies, des grands musiciens, des grands interprètes, des grands peintres qui ne sont pas forcément tourmentés. Je pense à Livy qui paraît heureux, qui paraît relativement heureux, équilibré. Pourquoi il aime l'Amérique, j'ai trouvé ça très drôle et très intéressant, mais drôle aussi, parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait ça. Bon, le fait est qu'on n'a rien. On n'a pas besoin d'avoir des références au passé, à tout ce qu'il y a derrière.
Oui, le présent compte plus.
Oui.
C'est un pays où le présent compte plus dans une Europe qui a un passé qu'on voit ressurgir de toutes parts assez régulièrement. C'est quelqu'un qui aurait quitté l'Europe dans les années 30-40 pour immigrer aux États-Unis dans les années 60-70. C'est le cas de pas mal de musiciens... d'Europe centrale, beaucoup de musiciens juifs d'Europe centrale, dont pour certains, dont certains personnages s'inspirent. Le personnage de Levi Pleischer hérite d'un cours du magnifique pianiste hongrois Gyorgy Scheböck, qui est parti enseigner aux États-Unis dans les années 60, je crois. C'est C'était aussi, plus prosaïquement, il y avait pour tous ces musiciens la possibilité de donner cours dans d'excellentes conditions, dans des beaux studios, avec de bons élèves. Ouais. Il y avait ça aussi.
Mais en même temps, la question que je me suis posée, mais bon, on ne va pas pouvoir en discuter maintenant, quel est le résultat chez les compositeurs, par exemple, ceux qui vivent dans un pays comme les États-Unis, où en effet c'est le présent qui compte, et les compositeurs qui vivent en Europe, avec tout ce passé qui est riche quand même?
Il y en a beaucoup quand on voit les États-Unis sont quand même dans leur idée un pays d'immigration. Et toutes ces musiques d'Europe centrale se sont... Il y a quand même une sorte de stérilisation de beaucoup de ces élèves de malheur, qui sont...
Ils ont gardé quand même des traditions dans les familles.
Mais quand on voit qu'ils ont presque tous fini par aller là où était l'argent, c'est-à-dire à Hollywood, à écrire des musiques de films, c'est pas forcément un apport pour la musique, mais ça leur a fait des bonnes vies.
Oui.
Toute cette crème viennoise sous les palmiers au soleil, non, mais ça peut être important aussi la vie. Vous dites, et vous avez raison, qu'il faut qu'ils soient forts, qu'ils sont forts et fragiles en même temps. Mais c'est-à-dire qu'on demande à des interprètes, plus vrai des interprètes qui sont plus physiquement exposés que des compositeurs, on leur demande de faire montre d'une grande sensibilité. C'est pour ça qu'on les aime. Et à côté, il faut qu'ils affrontent.
Ah oui, ils peuvent être malmenés.
Les rigueurs d'un milieu qui est extrêmement féroce, extrêmement compétitif, et ça demande des qualités et des défauts qui sont presque en opposition tout le temps. Donc,
tout à fait. Alors cette petite fille Clarisse, une petite fille de 7-8 ans, étrange. Là aussi, je me suis dit, mais bon, est-ce que... Figurez-vous que ce qui m'a frappée, c'est que j'ai entendu parler d'un dénommé Mourad, un jeune garçon issu des banlieues de Marseille. Vous n'avez pas un pianiste, pas un piano chez lui, une famille très, 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 très modeste. Et il joue incroyablement. Et il y a un interprète chinois, alors qu'il y a un nom répétitif.
Lang Lang.
Oui, qui a dit, mais celui-là, dans 4 ans, il sera... Top. Voilà, Mourad, oui, vraiment incroyable. Et alors, évidemment, en lisant au sujet de Clarisse, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Qu'a-t-elle et que n'a-t-elle pas?
Elle a une capacité qui est peut-être un petit trouble du comportement à focaliser énormément sur les choses, à être extrêmement concentrée sur certaines choses au détriment d'autres.
Oui, on parle de TOC, oui, banalement.
Oui, ou de spectre autistique, ou ces choses qui sont quand même assez mal diagnostiquées, relativement floues. Ce qui m'intéressait, moi, c'est quelqu'un qui peut être complètement captivé et pris par des rythmes, des battements, des couleurs, des longueurs de son. Ce qui est le cas de... pas mal de musiciens dans leur enfance, quand on parle avec eux. Il y a souvent ça, peut-être pas de la façon dont le fait le personnage, mais évidemment, et déjà au détriment de rapports humains plus normaux.
Mais tout comme Victor, Clarisse n'est pas issue d'un milieu de musiciens. Et tout à l'heure, on parlait de reconnaissance, mais de la famille. Est-ce qu'ils sont totalement... Enfin, c'est des êtres un peu extraterrestres qui arrivent dans les familles.
C'est quelque chose s'épanouit là où quelque chose ne s'est pas passé.
Oui.
On peut dire ça. Et ils ont ça en commun. Ils ont en commun de ne pas être issus d'un sérail de la musique.
Alors, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pourquoi donc ce grand interprète, ce grand violoncelliste qui ne veut plus prendre d'élèves, elle, qui n'a pas... pas un talent très affirmé encore, qui n'est pas joli, parce que évidemment, souvent, ce sont même sur scène, même pour interpréter en soliste, il faut être plutôt être pas mal.
Et ça de compte. Plus en plus, et de plus en plus.
De plus en plus, oui, l'apparence, ça compte. Hein. Voilà, pourquoi il a choisi elle pour lui donner des cours, lui, ce grand, est-ce que c'est sa fille cachée? Le bruit va courir.
Je donne là-dessus, y compris à moi-même quand j'avais besoin de justifier la chose, que des interprétations partielles, parce que je pense que lui ne le sait pas complètement. Et j'en reviens à la part de mystère de nos de nos actes. C'est un peu comme d'être amoureux, on peut donner 25 raisons objectives en disant « cette personne a une voix douce, des yeux d'une jolie couleur et aime comme moi faire ci et ça », mais la vraie raison d'un attachement, elle est ailleurs et en général elle reste mystérieuse.
C'est vrai.
Et c'est pour ça que l'attachement demeure. Il y a des choses qui... Il sent vivant. Je pense que le vrai truc initial, c'est qu'il sent vivant quand il la voit et qu'elle le remet dans la musique.
C'est une forme de résurrection de lui-même. Un peu, qu'un peu.
Jusqu'à un certain point. Oui. Jusqu'à un certain point. Mais c'est une association dangereuse pour les deux.
Oui. Nous faisons juste une pause musicale.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Oui, nous retrouvons Lola Kruber qui vient nous parler de son roman, Trois concerts, roman passionnant, roman très étayé. On apprend plein de choses, moi, les personnes qui ne sont pas mélomanes, et les mélomanes seront ravis parce qu'ils vont retrouver tout un milieu, tout un monde. C'est aux éditions Phébus. Et nous parlions d'une petite fille étrange, une petite Clarisse, qui va être prise sous l'aile ombrageuse, sévère, mais en même temps tellement éducative, d'un grand violoncelliste, Victor. Alors Victor, qui a un nom, Sobolevitch, voilà. Victor, cette petite fille, elle paraît fragile, sans défense, hors du monde, un peu en lévitation.
Elle n'est pas si fragile que ça. Sinon, elle ne tiendrait pas le coup.
Elle ne se laisse pas atteindre, vous dites.
Si, elle se laisse atteindre, mais elle ne se laisse pas détruire. Elle se laisse détruire jusqu'à un certain point, quand même, parce que le drame de cette éducation musicale, c'est qu'il va réussir vraiment à la construire comme musicienne, mais tout en la détruisant en tant que personne, par ailleurs, dans le même mouvement.
Oui, parce que parfois, il est très dur.
Mais les musiciens sont très durs. Hein. Peut-être pas à ce niveau, peut-être plus à notre époque.
Parce que presque humiliant parfois.
Presque humiliant, mais beaucoup des choses humiliantes qui sont dans le livre, soit sont des anecdotes exactes que des musiciens décrivent, soit sont imaginées d'après des choses que j'ai pu entendre raconter des musiciens. Il y a des choses...
D'accord.
Très dur qui se disent parfois, et j'ai regardé moi beaucoup de masterclass, mais même les masterclass sont un exercice public, donc le professeur sait qu'il y a du public.
Il en rajoute alors peut-être.
Éventuellement on rajoute, et a fortiori pour des masterclass qui ont été filmés. Mais dans l'intimité des cours, et dans l'intensité aussi de ces relations entre maître et élève, se passent des choses très dures, mais encore une fois, ce qui va suivre après l'éducation va être très dur aussi. Donc,
Est-ce que c'est nécessaire?
Je crois pas. Il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelait Whiplash, où on voyait un percussionniste, un batteur, avec un prof un peu, encore une fois, un film américain, donc idée américaine, mais un prof un peu sergent instructeur de l'armée qui lui faisait endurer 1000 tortures, et puis après, grâce à ça, il devenait un formidable batteur. Je pense pas qu'il faille faire l'éloge du sadisme et que ce soit la meilleure façon d'apprendre les choses. Mais il y a une part de préparation aux férocités du métier qui, là, par contre, me semble importante. Et puis en plus, il y a tout, je veux dire, il y a batailler pour avoir des boulots, batailler pour passer des auditions.
On va parler du monde, de ce monde, de quoi il est composé, parce qu'effectivement, il y a plusieurs structures qui fonctionnent à plusieurs niveaux. Mais à un moment donné, j'ai ri quand même, parce qu'il y a, à un moment donné, elle se rebelle, et à un moment donné, elle dit... Alors, on parlera peut-être de ce qui est écrit en italique, si on a le temps, parce que parfois, c'est ce qui est pensé. Je reviendrai, je dirai, j'ai fait mon travail. Voilà votre vin, monsieur Sobolevitch, votre vin de merde, bonne santé. La voilà ta piquette, vieux Grigou, que tu boiras tout seul. Bon, elle est en colère, il l'oblige, je ne sais pas trop pourquoi, enfin, il l'oblige à aller à la cave chercher des bouteilles de vin. Il n'a pas envie d'entrer dans cette cave. Alors, là aussi, il y a peut-être plusieurs explications.
Oui. Là aussi, je laisse beaucoup d'éléments au lecteur pour déterminer pourquoi il l'envoie chercher. Lui, il lui présente en disant, comme il lui fait quand même, il lui donne cours pour une somme négligeable, il a décidé qu'il prendrait ce que demande un conservatoire, alors qu'il pourrait, comme professeur privé, exiger beaucoup plus, mais il dit, vos parents payent le prix du cours et vous, vous devez faire un travail, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas à voir avec la musique, vous faites quelque chose pour moi, ce qui est déjà... une façon de poser la relation, et il lui demande quelque chose qui est dur pour une petite enfant, de descendre dans une cave et de remonter des bouteilles.
Dans une cave où, soi-disant, il y a des rats.
Voilà.
Bon, voilà. Mais c'est une fois par semaine, et quelques bouteilles.
Voilà. Bon, il y a un côté un peu Cosette qui me plaisait.
Oui.
Moi, c'est Cosette qui va chercher le sauveur. Non, mais autant écrire les choses qui nous ont marquées.
Évidemment.
Et tout, je pense... Je sais pas si on peut écrire un roman avec des enfants confrontés à quelqu'un de dur sans avoir l'esprit Dickens ou des choses comme ça, que j'ai suffisamment aimé pour les... je veux dire, tous les enfants s'identifient à ces trucs-là, donc il doit bien y avoir quelque chose d'encore plus personnel là-dedans. Sinon, on n'aimerait pas tant ces livres, mais que j'ai suffisamment aimé pour qu'elle ressurgisse là.
Et puis quand vous dites que finalement elle n'est pas si fragile que ça, effectivement, cette rébellion, moi, ça m'a plu. Et puis...
Mais là, il vient de lui infliger une humiliation terrible. Mais peut-être qu'il l'a fait exprès, on ne sait pas.
Il a envie peut-être qu'elle se rebelle.
Il y a quelque chose dans l'ambivalence des comportements des personnages qui me semble intéressant de ne pas trop expliquer, parce que dans la vie, on se retrouve... livré à des ambivalences pareilles. Et oui. Je ne pense pas que l'auteur soit nécessairement là pour dire c'est ça qu'il voulait en fait, etc. Oui. Mais plutôt pour dire au lecteur, c'est comme ça que ça se passe, non ?
Et puis on interprète effectivement. Oui. Alors j'ai parlé de sa rébellion, de ses mensonges aussi. C'est amusant. On va pas dévoiler au lecteur, hein, parce qu'elle va mentir, elle va même voler. Mais on va parler aussi de ce critique musical journaliste. Hein, vous l'avez pas gâté, hein, celui-là, Rémy Neuvel. Qui est un manipulateur. Il veut comprendre l'énigme Clarisse. Il dit dès qu'elle tire le premier coup d'archer, il t'arrive quelque chose. Alors, il est à la fois admiratif, mais à la fois, il est dur lui aussi. Entre les lignes, il dit à cette jeune femme qui va devenir sa maîtresse, ô combien rapide, qu'elle n'a rien d'exceptionnel. Il dit, mais pourquoi toi, ce qui peut être blessant ?
Ouais.
Lourd même.
Alors, au risque de vous surprendre, moi, je ne condamne pas complètement ce personnage. Et d'ailleurs, si je l'avais condamné complètement, ça n'aurait pas du tout été un plaisir de l'écrire. Mais ce qui m'amuse, dans la réception du roman, beaucoup de gens me disent, mais c'est vrai qu'il se conduit mal. Mais il ne fait pas que se conduire mal, parce qu'il est quand même sincère. Ils disent, un mec comme ça, c'est pas possible, ce personnage est affreux. Simplement, des Rémy Neuvel en exercice et en puissance... J'en ai croisé et connu quelques-uns.
Oui, mais c'est pas ça qui donne...
Non, mais leur téléphone n'arrête pas de sonner. C'est des gens qui sont...
Ouais, parce qu'ils sont dangereux. Donc, il faut les... Peut-être qu'on les trouve dangereux.
On les trouve aussi désirables. Faut pas...
Oui, vous
pensez. Parce que c'est quelqu'un qui, lui... on pourrait dire, si je devais résumer un peu comme ils sont tous les trois... Sobolevitz a une vision romantique des choses et de la musique, mais c'est peut-être juste une vision complètement névrosée. Clarisse a une vision assez innocente des choses, mais elle est quand même un peu informée. Et Rémy Neuvel a une vision ultra pragmatique, mais il est quand même sincère. Et sinon, je me serais ennuyée avec ces gens pendant 10 ans. Là où ils sont intéressants, c'est qu'il est quand même fasciné, lui, le critique, il est quand même fasciné par une sorte d'innocence musicale.
Il a deviné qu'il y avait quelque chose dans cette jeune fille. Et quand il entend les autres critiques la démolir, il dit, bon, c'est râpé, et il part.
Mais il a raison, hein. C'est-à-dire que ça ne servirait à rien de la défendre, sinon qu'on se dise, ah bah tiens, c'est sa copine.
Oui.
Il n'emportera pas le morceau. Là, il fait quelque chose. Bon, c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas un livre qui souffre trop le spoiler, alors je vais pas dévoiler ça.
Non.
Il fait quelque chose d'assez étonnant vers la fin du livre, mais vous l'avez peut-être pas encore. Mais s'il faisait ça par amour, ce serait formidable. Il le fait pas par amour, mais c'est ses motivations qui font que c'est quelque chose de très discutable. Mais ce qu'il fait, s'il l'avait fait par amour, ce serait formidable. Donc comment on juge de son comportement, moi je le trouve là où il y a une tristesse, c'est que lui, il a tout le talent social dont la personne qui a le talent musical est complètement dépourvue.
Oui, c'est ça. Il analyse bien les choses. Bon, par exemple, les conditions de réussite, on sait que la technique ne suffit pas, le talent même ne suffit pas. Il dit il faut s'affirmer, il faut être convaincant. Il y a autre chose aussi, il y a la personnalité de l'individu.
Mais certaines carrières se font sur ça, hein. Elles se font sur un charme, sur un charisme, sur une possibilité de communiquer avec les autres. Alors il y a des artistes qui cumulent les deux, par exemple, parlant du violoncelle, si on prend Rostropovitch, c'était un monstre de sociabilité. Un monstre musical.
Il avait le contact, il avait le bonheur de parler aussi.
Un de ses élèves que j'ai interviewé m'a dit la balalaïka fichée dans la poitrine. Ce qui était...
L'image est belle.
Bien, oui. C'est un immense musicien par ailleurs. Mais c'est pas obligé qu'un talent entraîne l'autre. Mmh. Et alors là, pour être peut-être plus désenchantée par rapport au monde qu'on traverse, j'ai l'impression qu'on s'en sort mieux de nos jours en ayant le talent social et un grand talent social et un moindre talent musical que l'inverse. Et que c'était peut-être faux il y a encore une vingtaine d'années.
Oui, mais ce n'est pas que dans le monde musical.
Et non.
Vous parlez des concours aussi, et là aussi c'est très intéressant de savoir, il faut calculer, est-ce qu'il faut y participer ou pas, quels sont les enjeux, et quelle est la faune qui gravite. Alors là aussi, le monde musical, très mercantile quand même. Hein.
Bah, il y a un moment où tout ça doit être un peu rentable quand même.
Oui.
Hein,
et oui.
On produit, quel que soit l'amour de l'art, on produit quelque chose qui économiquement doit tourner.
Et puis il y a les rivalités donc. Alors là j'ai énuméré, j'ai noté les agents des musiciens. Alors il y a un agent mutique pour être agent de musicien. S'il est mutique, c'est peut-être un peu...
C'est un coréen.
Il y a les promoteurs des concerts, évidemment, il faut organiser des concerts. Les critiques, les journalistes, bien sûr, et qui font quand même beaucoup, ils font et défont les réputations aussi, non ?
Alors, c'est peut-être un peu moins vrai qu'il y a quelques années. Mmh. Il y a une cruauté particulière. Alors, il y a une cruauté hors norme particulière, assez étonnante en ce qui concerne l'opéra. L'opéra, il y a un tout petit peu d'histoire... où il y a des représentations d'opéra dans le livre, l'opéra suscite une sorte de délectation dans la méchanceté qui, à part à la corrida, j'en connais pas d'équivalent. Non, mais c'est vrai, on voit des chanteurs, moins depuis quelques... Oh, à la Scala, ça doit encore se passer, des chanteurs être hués sur scène, mais où ailleurs On n'imagine pas, même un violoniste...
Pour notre chanteur français à la Scala.
Alors, Roberto Alagna, qui a été traité
d'une
façon inqualifiable à la Scala, qui a bien eu raison de s'en énerver. Mais... Qu'est-ce que, alors au-delà de l'outrage fait au chanteur, qu'est-ce que ça révèle de cette réaction du public? Enfin, c'est quand même, en plus le public d'opéra qui est un public extrêmement éduqué, plutôt bourgeois, d'où sort cette sauvagerie devant par exemple l'incapacité à la prouesse extra-humaine, quoi, atteindre le contre-mi ou le... Là encore je tranche pas, mais... Les critiques musicaux ont quand même... parfois une grande cruauté, c'est vrai. Je pense qu'on peut... que dans un ensemble d'atouts de communication, un critique peut aider une carrière. Je pense plus que ça se fasse et ça se défasse comme c'était encore le cas dans les années 60. Mais on voit très bien que des gens agréables, lisses parce que c'est le goût de l'époque, quand même, présentant bien, mignons, photogéniques, plaisants, sont bien plus assurés que des natures peut-être plus ombrageuses, plus fougueuses, plus mutiques. Ou bah, le truc qui serait discuté ou pas discuté, ce serait le violon, le piano, le violoncelle, ou rien. Et pour en revenir à l'opéra quand même, il n'y a qu'à voir l'évolution qu'il y a eu sur le physique des chanteuses d'opéra. Je veux dire, on n'aurait plus une Montserrat Caballé aujourd'hui dans des grands rôles ou une Birgit Nilsson.
Oui. Alors dans ce monde musical, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Les directeurs des maisons de disques, des organisateurs de concerts, des tournées. Bon, et c'est vrai que l'argent n'est pas exclu de cet univers. Qu'est-ce que c'est la Ballenschale?
C'est une fausse firme allemande que j'ai imaginée.
Ça passe ce nom, mais il y en a. Hein,
alors, dans le livre, elle s'appelle la Baden...
Oui, c'est très compliqué.
Wudenbergischer Schallenplatte Aufnahme.
Bon, vous avez fait de l'allemand, vous.
Non, j'ai demandé à un Allemand. En fait, c'est un hommage ironique. Il y a quelques... C'est absolument pas un livre à destination des seuls mélomanes, mais tant s'en faut, mais il y a quelques clins d'œil aux mélomanes aussi. Et c'est une espèce de petit clin d'œil à la Deutsche Grammophon qui...
Combien, oui.
Voilà.
Qui a toujours le haut du pavé?
Oui. Si vous dites Deutsche Grammophon, ça jette quand même. Ce qui ne signifie pas, une fois de plus, que ce soit forcément les meilleurs interprètes ou les meilleurs enregistrements. J'ai vu un truc, à la mort de Charles Aznavour, il passait un extrait d'une interview où il disait « J'étais pauvre, je voulais des Rolls-Royce parce que c'était le top du top dans ma tête, mais j'en ai eu deux et je me suis rendu compte que j'aime pas conduire ça. » Et peut-être que la Rolls-Royce, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour Aznavour, et peut-être que la Deutsche Grammophon, c'est pas la panacée non plus.
Alors, la manière dont vous avez écrit ce livre, alors déjà, effectivement, hein, ça a dû vous être dit, évidemment, on en parle beaucoup, l'emploi de la seconde personne du singulier. Voyons, quel est votre... Je vous dirai, moi, ce que j'ai ressenti, mais pourquoi?
Souvent, les choses qu'on se dit qu'il faut vraiment adopter, c'est les choses qu'on... Enfin, moi, j'ai confiance si j'ai dû un peu lutter, parce qu'au début, j'en voulais pas. Je voulais faire intervenir ça comme un autre niveau de sincérité, de façon extrêmement ponctuelle. On raconte le personnage, etc., ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé faire, peut-être une version acceptable d'un truc pas terrible. Et ensuite, il y avait une version encore moins acceptable et encore une vérité encore plus profonde, sous la forme de Stu, qui était autant une adresse qu'une façon du personnage de s'adresser à lui-même. Et en fait, dès que ces interventions avec le tu arrivaient, ça tuait le reste de la page. Tout à coup, c'était beaucoup plus fort. Donc, je me suis dit, essaye de voir ce que ça donne. Vous voyez la deuxième personne ?
Oui.
Je me suis dit à moi-même, essaye. Et c'est vrai qu'il n'y avait plus de discussion possible une fois que...
Je trouve que ça donne un sentiment de proximité, d'existence, vraiment.
Oui, on est dans leur pensée.
Oui, c'est ça. Oui.
Et je ne sais pas comment les
c'est
gens...
C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui ont fonctionné comme vous.
Il y en a quelques-uns quand même. Et le peu d'occasions, j'ai eu l'occasion de parler avec un ou deux auteurs qui avaient utilisé Stu.
Oui.
Et on se disait...
Ah oui, oui, mais...
Et
oui.
On se disait, ah oh, c'est bien, c'est dur de s'en défaire, ça permet des choses, ça permet énormément de choses.
Oui.
Je sais que pour certains lecteurs, c'est un peu... Ça les rend perplexes au début ou ça les rebute, mais...
Est-ce que vous vous sentez moins seul quand vous dites tu à votre écriture ?
Non, mais je me sens pas seule, de toute façon. Enfin, ou c'est une solitude, c'est ce qu'il y a de mieux dans la solitude, quoi.
Oui. Alors, j'avais l'impression, mais après je me suis dit, est-ce que c'est vrai que chaque chapitre prenait la dernière idée du chapitre précédent ? Est-ce que c'est ça ? Non ?
Non. Bah, on essaye que
peut-être
quand même,
au début, hein ? Oh, oui.
On essaye qu'il y ait une petite continuité entre les affaires, mais pas de façon...
Oui.
De temps à autre, oui, mais pas de façon systématique.
Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est finalement les différentes formes de langage. Ça peut être un langage parfois vert, très vivant, très actuel. Il y a des tournures de phrases originales aussi. Il me semble, renvoi du sujet à la fin de la phrase. Vous n'avez pas me le dit, mais bon, voilà, j'aurais dû noter tous les endroits.
Il y a un personnage étranger aussi, hein, Sobolevitz, on ne sait pas comment il a appris le français, quel est le français qu'il parle.
Oui.
Ça conditionnait pas mal son français. Ensuite, j'avais trois personnages. Il me semblait évident qu'il pense et parle pas pareil.
Oui.
Mais il fallait que je m'approprie, moi. C'était pas en leur donnant des tics que j'allais résoudre ça.
C'est-à-dire
comment leur pensée s'articule, en quoi les pensées des musiciens ont besoin d'un ton plus musical que les pensées du critique, qui sont peut-être plus influencées par la littérature ou par la chose écrite.
Quand vous écrivez, vous lisez aussi à haute voix ce que vous écrivez ?
Ça dépend. Ça dépend. A priori, non.
Parce qu'on
pour
en
certains,
envie de,
pour certains envie passages, oui.
Oui. Et les passages en italique, donc ?
Passage en italique, c'est une... Alors, c'est ce qui s'est passé une fois que j'ai pris le tu, qui ne renvoyait plus, qui devenait les voix du livre, et qui ne renvoyait plus à ces vérités embarrassantes. L'italique est venu pour signaler un autre type de pensée, et aussi, ce qui a précipité peut-être l'italique, c'est... Je connais pas le solfège, mais quand on, même sans connaître le solfège, il y a beaucoup de choses sur une partition qu'on peut lire. Donc j'ai beaucoup regardé de partitions, et sur les partitions, il y a quand même toujours des nuances qui indiquent que oui, c'est ça, mais c'est avec une nuance comme ci ou comme ça. Et ces italiques ont aussi cette fonction-là, pour une part. Et aussi, j'aime bien l'idée, elle est assez présente dans le livre, que même à soi-même, on a fait un truc plus ou moins avouable, plus ou moins glorieux, qu'on s'avoue plus ou moins à soi-même, et on s'en fagote une version à peu près présentable. Et en dessous, il y a encore une petite
mezzo
voix.
Voce.
Voilà. Ou sotto voce, qui dit oui, mais c'est pire, en fait.
Alors ouais. Donc, il y a quand même, entre l'écrivaine et un musicien, il y a quand même des affinités.
Ah ben, bien sûr, on trouve toutes sortes de correspondances. Quand je disais que la musique m'avait appris des choses, la musique m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai repris des passages que j'avais écrits beaucoup plus tôt à la lumière de ce que j'avais senti. Mais sur l'importance des contrastes, sur justement l'importance des nuances et d'être tout bonnement rythmiquement aussi. Le fait qu'on soit pris par un morceau de musique, qu'on soit pris par une mélodie, et le fait qu'on soit pris par un livre, il y a beaucoup de choses dont la littérature peut s'inspirer. Beckett, qui n'est quand même pas le moindre des écrivains, surtout pour la musicalité, disait, alors ça vous dit ce qu'il en est du combat, il disait « la musique gagne toujours ». Donc bon...
Oui. Oui, oui, oui. Mais effectivement, il y a dans votre ouvrage beaucoup de passages où on lit à haute voix. D'ailleurs, vous en avez lu pas assez, à mon avis, mais on n'a pas de temps. En tout cas, moi, j'ai pris grand plaisir, mais je sais que je ne suis pas la seule à vous lire. Bien sûr, il y a plein de thèmes que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. Il y a beaucoup d'informations aussi. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'aime bien que, dans un roman, on apprenne aussi des choses. Bon, il y a l'analyse d'un milieu, de caractère, de situation. Et j'ai eu l'impression d'entrer dans ce milieu. Et vous voyez, je n'avais pas conscience de beaucoup de choses. Bon, évidemment, on comprend la sensibilité exacerbée des artistes, leurs forces et leurs faiblesses. Mais là, vous nous avez fait entrer et on a envie d'y rester dans ce milieu. En tout cas, un grand merci.
Merci beaucoup.
Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de 3 concerts, le titre de l'ouvrage de Lola Gruber, édité aux éditions Phébus. Merci.
Au revoir. C'est moi. Merci, Monique.